Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web de 10h à midi tous les jours. Et puis on est aussi en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez en dehors de France. Le programme de l'heure à venir, nous allons parler immobilier comme tous les jours. D'ici un gros quart d'heure, on fera le point sur l'assurance emprunteur. Ensuite, le question-réponse du jour portera sur la Chine. Faut-il investir en Chine en 2024? La croissance du pays reste importante malgré le ralentissement dont on expliquera les raisons. Puis on se demandera qu'attendent les gérants des actions chinoises pour la nouvelle année. Réponse avec Louis Darvieux de chez Amiral Gestion. On se demandera pour finir l'émission comment débuter une collection, comment estimer la valeur d'un objet. Vous savez, la puissance de l'histoire, de la provenance, la qualité, la désirabilité, c'est autant de critères qui permettent de donner un prix à un objet quand on collectionne. La maison Christie's sera avec nous pour vous tutorer. Au programme, il y a vous. Vous nous écrivez. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr. Ou en message privé sur LinkedIn, je vous lis comme Guillaume et Nicolas. Vous nous écrivez, vos questions viennent infuser l'émission, sinon elles vont dans la pompe à questions pour être répondues ultérieurement. C'est l'heure de faire le point sur l'information économique avec Raphaël Couder.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, le ministre de l'économie s'invite chez EDF. Bruno Le Maire va assister cet après-midi au comité exécutif de l'entreprise publique pour vérifier qu'elle contrôle bien les coûts et les délais des futurs EPR. Le ministre s'inquiète de l'explosion de la facture de ces 6 réacteurs. Mathieu Pechberti.
Largement présent au conseil d'administration, le gouvernement s'invite aux commandes d'EDF. Bruno Le Maire met un coup de pression aux dirigeants et pas seulement au PDG Luc Rémont. Il veut s'assurer que l'entreprise publique tiendra le calendrier fixé pour la relance du nucléaire. Emmanuel Macron a promis que le chantier des 2 premiers EPR démarrera en 2027. Le ministre de l'économie s'inquiète de la facture des 6 EPR qui a déjà commencé à augmenter. Le chiffre de 67 milliards d'euros a été officialisé en interne, bien supérieur aux 50 milliards d'euros annoncés en 2022, mais qui dataient d'avant le Covid. Mais depuis, l'inflation est passée par là et ce n'est pas fini. Les factures des fournisseurs d'EDF pour le chantier de Penly gonflent à vue d'œil, comme Eiffage qui s'occupera du génie civil. Luc Rémont veut engager un budget bien calibré pour éviter des dérapages comme Hinkley Point dont le coût a doublé. L'enveloppe définitive doit être arrêtée cet été pour acter la décision d'investissement à la fin de l'année.
Dans l'actualité également, la tension monte d'un cran sur le plan sécuritaire en France. Le gouvernement rehausse le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé. Urgence attentat après la revendication par le groupe État islamique de l'attaque perpétrée à Moscou. L'exécutif décide de renforcer le niveau d'alerte dans un contexte particulièrement sensible à 4 mois des Jeux Olympiques de Paris. Le plan de David Layani pour sauver Atos. Dans les colonnes du Figaro, le patron de OnePoint, premier actionnaire du groupe informatique, appelle à mettre immédiatement fin à tout projet de cession. L'homme d'affaires veut faire d'Atos un Airbus du cyber et du digital et se dit prêt pour cela à une solution de recapitalisation. De son côté, Atos temporise. Le groupe indique prendre note des propos de David Layani. Il précise qu'il communiquera en temps voulu sur sa position. Et puis pendant ce temps-là, Airbus se renforce dans la cybersécurité. Le géant de l'aéronautique rachète Infodas, groupe allemand spécialisé dans la sécurisation informatique. L'acquisition intervient une semaine après que l'avionneur a mis fin à ses discussions engagées avec Atos. Et puis pour finir, le japonais Nissan dévoile sa feuille de route. Le constructeur espère notamment vendre 1 million de véhicules supplémentaires d'ici 3 ans. Le groupe confirme qu'il souhaite continuer de s'appuyer sur son alliance avec Renault et Mitsubishi. Il va néanmoins explorer de nouveaux partenariats, notamment au Japon et aux États-Unis.
Merci beaucoup, Raphaël. On part rejoindre Antoine du côté d'Euronext. Antoine, on constate un marché un petit peu plus décidé vers une baisse, là, à moins 0,58%.
Oui, ça se sent depuis un gros quart d'heure, là, moins 0,58%, hein, très clairement pour le CAC 40 qui avait commencé la séance vraiment à l'équilibre. Mais là, on est en train de craquer nos supports techniques à la baisse, notamment la zone des 8125 points à peu près. Là, on retombe à 8105, donc on est en train de tester les 8100. Du côté des autres places européennes, on a un DAX à Francfort qui est en baisse de 0,11%, moins 0,31 pour l'Eurostock 50. À noter encore une fois que la volatilité remonte un petit peu, 13,62 pour le VIX américain. On remonte assez nettement par rapport à la fin de la semaine dernière. Un marché un petit peu plus stressé depuis cette fin de matinée. Pernod Ricard signe la plus forte baisse de l'indice parisien à moins 1,96%. On est à 145,25€. LVMH qui pèse toujours lourd à moins 1,7%, 814,40€. Et Société Générale qui a été dégradée par Morgan Stanley à en ligne perd en ce moment 1,6% à 24,13€. On reste avec des valeurs à la hausse. Un Thalès plus 1,46€, 159,50€. Franc plus 0,55, 208,40€ et Eurofin Scientifique plus 0,1% à 56€. On a Sanofi aussi plus 0,14% à 88,77€. Vraiment des valeurs sûres. Dassault Aviation signe la plus forte hausse du SBF 120 à plus 4,2%, 201€. Le CAC moins 0,57, 8105 points. L'euro 1,0819. Lorraine.
Merci beaucoup Antoine. On le voit, un retour sur les supports enclenchés. C'est l'heure de votre histoire.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
On va parler d'un des catalyseurs du marché en ce moment. C'est évidemment la hausse des primes sur le risque géopolitique. Vous allez nous raconter comment ça se traduit sur les marchés en ce moment.
Bah, disons que ça accroît le sentiment de plafond de verre là qu'on a en ce moment sur les indices, bon, qui règne un petit peu depuis la fin de la semaine dernière. Mais enfin, c'est vrai que on a beau avoir des analystes sur votre antenne qui disent que la bourse, globalement, les conflits, elle s'y fait. C'est vrai qu'on a rarement eu en ce moment autant de points chauds géopolitiques, que soit la guerre entre la Russie et l'Ukraine, que soit la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, que soit le Congo, que ce soit maintenant la recrudescence des actes terroristes. On a pu le voir du côté de la Russie ce week-end, et puis également le relèvement de toutes les alertes antiterroristes à travers le monde qui ont eu lieu juste après. On voit que la prime de risque géopolitique fait vraiment son grand retour sur le marché en ce moment et qu'elle accroît ce sentiment de plafond de verre autour des indices. Ça peut se traduire de manière très très simple, et on le voit du côté des actions, ce sont les valeurs liées à la défense et l'aéronautique qui signent les plus fortes hausses, que ce soit les Thalès, Safran, Dassault Aviation. Ça, c'est vraiment un cas symptomatique. On le voit aussi de manière un tout petit peu plus en filigrane, on va dire, sur les taux d'intérêt. On voit que depuis la semaine dernière, les banques centrales ont un ton très clairement plus apaisant concernant leur dynamique de politique monétaire, mais les taux obligataires ont vraiment du mal à descendre, et c'est sans doute le reflet d'une forme de stress sur le plan géopolitique. On le voit aussi avec le relèvement des indicateurs de volatilité. On parlait du VIX américain, c'est sans doute lié. Et puis, les matières premières. L'once d'or fin a quand même signé un nouveau record historique absolu ce matin, bien au-delà des 2170$. On est à 2169 en ce moment. On voit qu'il y a des tensions aussi assez nettes sur le marché du pétrole, notamment un Brent de mer du Nord qui a repassé le cap des $85. Donc c'est vrai que la semaine sera un petit peu plus calme du côté des statistiques économiques, du côté des résultats d'entreprise. Ce sera en plus une semaine écourtée parce qu'on a un week-end de 4 jours à cause de Pâques, mais sans doute un petit peu de volatilité dans un marché un petit peu plus technique.
Merci beaucoup Antoine pour ce décryptage. On vous retrouve au fil de la semaine pour continuer à couvrir l'actualité des marchés. Il est 11h11 sur BFM Business. C'est l'heure de parler immobilier avec Marie et notre expert, juste après une petite pause.
Tout pour investir sur BFM Business. Ce week-end sur BFM Business, sortez de votre boîte avec Erwan Morris.
On vous apporte sur le plateau de BFM Business des solutions, des innovations pour une meilleure qualité de vie au travail. Et ensemble, on essaie de vous rendre plus heureux au boulot.
Happy Boulot, présenté par Erwan Morris, tous les vendredis à 23h30, samedi à 10h et dimanche à 17h sur BFM Business. Tout pour investir, la place de l'IMO.
La place de l'IMO dans vos projets, dans votre tête, dans vos finances, elle est importante. Bonjour Marie-Cœur de Roy.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Nous sommes avec Emmanuel Provost ce matin. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes directeur général d'AFI Esca Patrimoine. Avec vous, nous allons parler assurance emprunteur. Alors ça va plutôt un peu mieux peut le dire, dans le secteur de l'IMO. La question du jour, c'est est-ce que ça va aussi mieux pour vous, pour vos clients, pour les assurances emprunteurs ?
Marie, qu'en pensez-vous, l'immobilier a repris ?
Alors oui.
Nous avons des sons de cloche différents.
Non, parce qu'en fait, moi, alors, faut pas me lancer là-dessus, Emmanuel, mais moi, effectivement, je considère que la baisse des taux qui a été amorcée depuis le mois de janvier permet une reprise de transactions. Maintenant, je crois pas que la reprise soit spectaculaire. Donc, j'attends que vous me disiez, chez vous, parce qu'on a un vrai problème et on en parlera parce que là, on a mandaté des gens pour nous sortir des petites datas sur l'évolution des prix. Et j'ai quand même le sentiment que les vendeurs profitent de cette fenêtre de tir sur les taux d'intérêt pour se dire, je ne vais pas baisser ces mépris. Ce qui fait que bon an, mal an, même si on a des acheteurs qui décrochent un peu plus facilement un crédit immobilier, leur pouvoir d'achat immobilier n'a pas stratosphériquement et grimper depuis la fin de l'année dernière. Donc je ne suis pas certaine qu'on soit sur une vraie reprise. Et donc je vous pose la question, Emmanuel, qu'en est-il de l'assurance emprunteur ?
Ben, je crois qu'on est sur du moral, on joue sur le moral des gens. En fait, vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, c'est pas stratosphérique la remontée. Hein. Malgré tout, quand même, on avait quand même signalé il y a 2-3 mois des clignotants un petit peu au vert, des indicateurs qui sentaient bon, enfin qui sentaient bon pour quand, qui sentaient bon pour 2024, éventuellement deuxième semestre 2024. Alors vous avez raison. Je pense qu'on est un espèce de no man's land d'incertitude. Alors vous avez raison. Les vendeurs, ils se disent oh, ça va reprendre, chouette. Les taux vont baisser, je vais pouvoir maintenir le prix de ma maison que je dois vendre et puis on peut encore attendre 6 mois, etc. Je le vis personnellement, enfin, voilà, dans ma famille, voilà.
J'ai un ami qui.
et puis les acheteurs, eux, c'est les plus pressés quand même.
Ouais, quand même. Hein?
Oui, quand même, parce que ils en ont un petit peu marre. Ça fait 2-3 ans qu'ils attendent, savoir s'ils déménagent, s'ils achètent plus grand, si. Donc. Du coup, c'est une incertitude. Alors l'assurance de prêt dans tout ça, l'assurance de prêt, vous savez, elle a deux rubriques. Elle a la rubrique quand j'achète ma maison. Ouais. Et puis la rubrique, il y a longtemps que j'ai acheté ma maison. Alors si on parle de quand j'achète ma maison, on est dans cette incertitude avec quand même cette troisième semaine de mars, une petite virgule.
Parce que là, on parle, donc, quand j'achète ma maison, ça veut dire, est-ce que je prends mon assurance crédit auprès de la banque qui me prête de l'argent, ou est-ce que je prends mon assurance crédit ailleurs, ce qui fait que je la paierai moins cher. Voilà. Mais tout à chacun qui nous suit sur BFM Business et qui vous suit, Emmanuel, c'est pertinemment qu'au démarrage du crédit, on a plutôt tendance à dire aux banquiers, mais formidable, vendez-moi tout mais donnez-moi le crédit. Donc, est-ce que là, la résiliation, la capacité, alors c'est pas une résiliation, mais du coup, la capacité de prendre son assurance ailleurs au démarrage du crédit, vous la constatez en ce début d'année ou pas ?
Alors, je crois que ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on octroie un prêt et qu'on dit aux gens depuis 10 ans, hein, vous et moi, on leur dit prenez votre assurance en délégation, prenez une compagnie d'assurance, ça va vous coûter moins cher, vous pouvez, la loi vous autorise à le faire. Ben, on a constaté que ces 2-3 ans de crise avaient accentué le fait que les acheteurs ne puissent pas ou prou prendre cette délégation. On est passé, on a vécu pendant 10 ans à peu près à 12% de part de marché.
Ouais.
Là, on a baissé à 7,5.
Ah ouais.
Et à un moment donné, il va falloir qu'on remonte un petit peu.
Mais comment c'est possible?
Alors,
ça
c'est
pardon,
possible
pour que ce soit très clair pour tous ceux qui nous suivent et pour moi en premier.
Oui.
7,5%, c'est quoi? C'est le pourcentage de gens qui prennent une assurance en délégation?
Exactement. Exactement. Aujourd'hui, lorsque vous achetez votre maison, vous allez voir votre banquier, vous fait un prêt. Et il n'y a que 7,5%
des gens. Mais pourquoi?
Alors pourquoi, Emmanuel? Pourquoi ça a baissé déjà? Hein, parce que la part de marché de 12, peut l'expliquer, ça date d'il y a très longtemps, on essaye de grignoter les parts de marché, on n'y arrive pas. Mais pourquoi c'est descendu à 7? Parce que pendant 2-3 ans, les quelques banquiers qui prêtaient de l'argent prêtaient en disant, écoutez, alors je vais pas me faire des copains aujourd'hui, écoutez, moi, je vous propose un taux à 2,5, mais enfin, si vous prenez votre assurance chez moi, et puis si vous la prenez pas chez moi, ce sera 2,8.
Et si vous la prenez pas chez moi, peut-être, ce sera 2,8.
Et puis si vous la prenez pas chez moi, il y aura pas de crédit du tout, etc.
Donc,
petit à petit, le pouvoir n'est plus chez les acheteurs, le pouvoir est revenu chez les prêteurs, absolument. Donc, tout ça, ça fait que, les gens, ils préféraient avoir leur prêt. Oui, ils préfèrent avoir leur prêt. En plus, on leur a proposé des assurances, parfois avec des montages.
Ils ont baissé un peu leur prix,
Oui, ils ont baissé leur prix. C'est schnappant.
Il n'est pas content, hein. Pour en revenir à la question initiale, est-ce que justement ce ratio-là, 7,5% de personnes qui vont chercher leur assurance en délégation, dit quelque chose de est-ce que ça va mieux le, est-ce que ça va mieux?
Bah, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va observer dans les mois qui viennent le rééquilibrage de ces gens qui avaient quand même le pouvoir de dire « je prends la délégation d'assurance » au lieu de votre assurance de prêt, mais on, c'est trop tôt pour le dire.
Mais Emmanuel, moi ma vraie question, ouais, c'est qu'on prenne la délégation au démarrage du crédit ou pas, on sait très bien que dorénavant on peut changer à n'importe quel moment. Le vrai sujet, qu'on soit en position de faiblesse face à son banquier au moment où on demande un crédit immobilier, tout le monde l'entend. C'est encore plus vrai aujourd'hui que ça ne l'était hier, certainement, mais le fait est que c'est assez éternel ce rapport de force. Ok. Est-ce que demain, on va avoir quand même beaucoup plus de délégations au cours du crédit? Est-ce que ça, c'est votre certitude ou pas?
Alors, ce qui fait que les assureurs, comme nous, comme Afiesca, comme d'autres, ont réussi à rester un peu, alors pas en stabilité, mais à minimiser, ouais, un peu cette crise, c'est tout simplement que la fameuse résiliation infra-annuelle, la possibilité de changer à tout moment son assurance de prêt, a considérablement augmenté. C'est-à-dire que les gens se sont informés, grâce à vous, à vous tous, à vous toutes. Aujourd'hui, l'information circule. Beaucoup de courtiers se sont spécialisés. Il faut aller voir des courtiers hein, pour ça, parce que c'est un peu compliqué de changer tout seul. Il est certain que la majeure partie des contrats faits aujourd'hui par les délégataires, les assureurs alternatifs, sont principalement des contrats en résiliation infra-annuelle.
Oui, c'est ça.
On est tous endormis sur ce qu'on appelle la loi Lagarde, ouais, c'est-à-dire l'assurance de prêt à l'achat de la maison, et puis on attend la résiliation.
Mais oui, c'est ça. C'est tout le monde signe son crédit, et puis derrière, vous arrivez en force. Mais est-ce que vos tarifs sont toujours aussi attractifs? Alors, vous n'allez pas me dire le contraire, mais là, je voyais, vous disiez chenapant à l'égard des banques. On a vu un rapport récemment qui nous expliquait que, en fait, les banques avaient quand même nettement baissé les tarifs de leur propre assurance de prêt. Est-ce que finalement, vous allez devenir finalement peut-être moins intéressant?
Hors de question. Alors, les banques ont effectivement baissé leurs tarifs. Elles ont baissé, pourquoi? Parce que elles ont compris qu'il fallait qu'elles, à un moment donné, à force de décrier ces contrats alternatifs,
oui, parce qu'on disait deux à trois fois plus cher, les banques, on disait.
Alors, on disait deux fois plus cher. Bon. C'était ça à peu près, deux à trois fois plus cher. Alors, les banques se sont dit, attention, on est quand même menacés. Donc, on va prendre des alternatifs interne, on va prendre des contrats un peu moins chers. Et puis, elles ont regardé aussi, et ce qu'elles font le plus couramment, c'est qu'elles baissent leur propre tarif de contrat groupe bancaire. C'est-à-dire que dès qu'elles se sentent menacées, et on le voit tous les jours en résiliation, une banque réagit en disant « Mais attendez, moi je vais vous proposer un tarif moins cher. » Oui, mais enfin, attendez... Pourquoi vous ne l'avez pas proposé il y a 5 ans à l'adhésion, ce tarif moins cher?
On est d'accord, Emmanuel.
Moi, je pousse un petit cri,
mais
là.
Mais nous, on ne va pas se mettre ni contre les banques, ni contre les assureurs alternatifs. Mais on va se dire, le plus important, c'est quand même que le client soit informé, que l'emprunteur soit informé. Si effectivement, il peut obtenir des tarifs dignes de ceux de la concurrence au sein de sa propre banque, je me mets à la place d'un client et d'un acheteur, d'un propriétaire avec son crédit. Non?
Oui, alors, il y a les deux positions. Oui, vous avez raison. L'important aujourd'hui, et c'est en ça qu'a été créée la loi Lemoine, c'est pour favoriser le pouvoir d'achat.
Oui.
Donc pour faire gagner un petit peu de sous.
Alors c'est quoi les gains encore aujourd'hui? Parce que, encore une fois, je reviens à ma question. Deux à trois fois moins cher, c'est ce qu'on disait, j'ai envie de dire, de tout temps. Aujourd'hui, on est à combien de différence de prix en moyenne entre
les moyenne, on est à environ 5000 euros sur le restant à payer du crédit.
En moyenne, vous regardez votre assurance de prêt banque face à une assurance de prêt alternative.
Voilà.
Et là, vous avez 5000 euros d'économie potentielle en moyenne.
Et j'ai presque envie de vous dire quelque chose, Marie, Lorraine, c'est que aujourd'hui, moi, tous les jours, j'entends des émissions, je regarde des émissions où on parle d'un panier moyen au supermarché où on fait gagner 1%, 2%, 3%. Alors, on va acheter les pépitos là plutôt que les carambars ici. Attendez, on parle de 5 euros par panier de 200 euros, c'est-à-dire de courses de mois d'une famille moyenne. Attendez, minimum, ce qu'on peut faire gagner en assurance de prêt, c'est 20-30 euros par mois. Donc j'ai envie de dire, et en plus, c'est totalement gratuit de changer son assurance.
Bah, faut quand même que alors, je passe sur un courtier, non?
Oui,
c'est ça.
Oui. C'est gratuit, mais alors pardon, pour ceux qui, celles qui nous écoutent, qui sont dans ces situations que vous avez listées en début d'interview, pour ceux qui sont pressés, ah, parce qu'il y en a qui sont pressés, peut-être par leur banquier, mais pas que, par le temps tout court. Est-ce que ça permet toujours de faire des économies, de bien réfléchir aux alternatives qu'on a vis-à-vis de son assurance emprunteur quand on est pressé?
Pressé au moment où vous avez déjà votre crédit, vous possédez votre crédit,
vous êtes pressé de changer. Ou justement, vous êtes en train de le négocier avec votre banque. Est-ce qu'on a luxe de pouvoir...
À l'entrée, on a dit, vous avez raison, Lorraine, à l'entrée, on est pressé d'avoir sa maison. À l'entrée, maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens souscrivent leur assurance de prêt auprès de leur banque.
Et ils changent après.
Et ils changent juste après. Il y a même des courtiers, voilà, qu'on connaît bien, et qui ont cette intelligence de dire, mais attendez, je vous laisse faire avec votre banque, vous avez votre crédit, maintenant, je vous fais votre résiliation infra-annuelle, je vais même vous la faire tout de suite, je vais vous faire remplir les papiers tout de suite. Mais c'est malin! C'est malin, gagner quelques mois.
Nous, on a toujours dit ça. Bon, voilà. Non, mais alors vous dites que c'est complètement gratuit quand même, c'est la croix et la bannière pour changer, donc, parce qu'on sait très bien. Nous, autant on a toujours dit, effectivement, pour négocier un crédit, et j'embrasse tous nos amis courtiers, c'est vrai que c'est plus utile aujourd'hui, mais fut un temps, c'était peut-être pas nécessaire quand vous entriez dans la banque et que vous aviez votre crédit de suite. Aujourd'hui, et avant, c'était déjà le cas, changer son assurance de prêt, c'est quand même pas simple. Donc vous dites que c'est complètement gratuit, bah pas forcément, il faut que j'aille voir quelqu'un quand même. Va m'aider.
Oui. Alors, quand je dis c'est complètement gratuit, peut-être à une nuance près, c'est que le courtier que vous allez voir va probablement vous facturer quelques frais de dossier, ce qui est totalement
normal.
Je vais quand même signaler que pour négocier 0,1 point de crédit pour son crédit immobilier dans sa banque, c'est 1 200 € de frais de dossier non signalés et automatiquement prélevés sur votre compte courant le mois d'après. Mmh. Donc, ça veut dire qu'un courtier qui vous prendrait 200 ou 300 € pour vous faire gagner 5 000 €, pas trop dommageable.
Bon, et alors du coup, ça se passe facilement ou pas? Parce qu'on a beaucoup dit, je pense à Astrid Cousin de chez Magnolia, qui nous a toujours beaucoup alerté là-dessus, sur est-ce que c'est facile, même pour les courtiers, d'arriver à dire à la banque, maintenant c'est bon, tu changes. On a eu beaucoup de petites manipulations des banques pour éviter de perdre justement cette assurance de prêt. On en est où là, Emmanuel? Le mot de la fin positif, si possible.
Le mot de la fin positif. Eh bien, écoutez, je crois qu'il faut absolument, aller renégocier parce que les courtiers aujourd'hui qui font ce genre d'opérations, Afiesca en fait partie, Afiesca Patrimoine en fait partie, April, etc., Magnolia, hein, voilà qu'on a cité, ont des taux de réussite dans la négociation de crédit,
d'assurance
qui avoisinent les 90%, 92%, 95%.
Donc oui, il y a peut-être encore des subterfuges,
ça passe. Ça passe pour la grande, grande majorité des cas.
Voilà. Faut-il renégocier son assurance emprunteur? Vous avez eu une réponse. Merci beaucoup Emmanuel Provost, directeur général d'Afiesca Patrimoine. Merci Marie-Cœur de Roy. On se retrouve toute la semaine. Hein. Nous, il n'y a pas de Pâques ou je ne sais quoi. Nous serons là vendredi en équipe.
De toute façon, Pâques, c'est la semaine d'après, non?
Oui, mais vous savez, sur les marchés, c'est déjà vendredi.
Ah ouais, mais bon, c'est parce qu'ils adorent le chocolat.
Marie, un peu teasing sur les sujets de la semaine. C'est dense. Marie fait une tête sur ceux qui écoutent la radio.
Non, c'est dense. Si, vendredi, on va parler expat. Lorraine, vous vouliez absolument qu'on traite du sujet parce que vous avez eu beaucoup d'interpellations sur les réseaux sociaux. Donc, on va parler des expats, mais il y aura plein de choses. Demain, on a Stéphane Descartiers. J'essaie de me rappeler l'agenda, mais c'est pas simple pour moi le lundi matin, vous savez. Mais voilà, on a plein de sujets qui vont être passionnants toute la semaine.
Voilà, demain, rendez-vous avec Stéphane Descartiers qui nous fera son petit coup de gueule mensuel, le président de la maison de l'investisseur. Et puis, vous l'avez entendu, coucou les expatriés, on parlera de vous vendredi dans notre grosse séquence immobilier. Merci à tous les deux. Vous restez branchés, surtout pour investir. On va marquer une rapide petite pub et après, on vous emmène d'ailleurs à l'étranger. On vous emmène en Chine avec un gérant pour faire le point sur est-ce que le marché actions chinois vaut quelque chose? Est-ce que c'est le moment d'y aller, de continuer à y aller? Et puis après, je vous emmène avec Christie's réfléchir à la collection que vous allez peut-être construire grâce à l'argent que vous allez pouvoir placer intelligemment dans des beaux objets. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Tout pour investir en Chine, sur les marchés chinois peut-être. C'est ce dont nous allons parler dans les prochaines minutes avec vous, Louis Darvieux. Bonjour.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes gérant chez Amiral Gestion, fin connaisseur de la Chine ou du moins observateur de parfois fonctions. Racontez-nous, avant de démarrer ce talk, comment vous positionnez par rapport au marché chinois, comment chez Amiral vous envisagez les choses.
Eh ben en fait, structurellement, je dirais, toutes ces dernières années, on est plutôt sous-pondéré sur la Chine, pour des raisons macro, mais aussi pour des raisons microéconomiques, parce qu'en fait, la Chine, c'est peut-être le pays où la concurrence est la plus difficile entre les entreprises. Donc, trouver des bonnes idées d'investissement à long terme, c'est quelque chose, c'est peut-être l'endroit où c'est le plus difficile au monde, en fait.
Le long terme, c'est compliqué. On va essayer d'y comprendre quelque chose avec vous. Bon, il y a une situation économique qui est complexe à lire pour les investisseurs non professionnels. Comment on peut la qualifier ? Est-ce qu'elle est inquiétante ? On se parle, pour ceux qui nous écouteraient en podcast, à une autre période de l'année. Nous sommes en fin mars 2024. Faites-nous le point sur la situation économique telle que vous la lisez.
Eh bien, elle est difficile. Il y a surtout très peu de visibilité. Et pour autant, c'est pas un effondrement, hein. C'est un peu cette situation qu'on connaît depuis 2-3 ans, avec une crise immobilière qui est forte, mais pour autant une économie qui tient parce que la consommation est solide. Hein, on a quand même des fondamentaux qui sont bons parce que la Chine est l'usine du monde, et puis parce que il y a des gains de productivité dans cette économie qui fait que la consommation est tout de même solide.
Bon, impossible de parler de Chine et de fondement moyennement solide sans parler d'immobilier.
Oui, tout à fait.
Expliquez à ceux qui nous écoutent, qui se demandent pourquoi le secteur immobilier chinois les concerne ici en France.
Alors, parce que au niveau, je dirais, de l'ensemble de l'économie chinoise, c'est très important l'immobilier. Hein, l'immobilier résidentiel, ça va représenter jusqu'à 25% du PIB chinois. Donc, pour toutes les entreprises, y compris françaises, les entreprises de luxe, par exemple, qui vendent en Chine, c'est vrai qu'on peut pas ignorer la dynamique de l'immobilier chinois pour savoir comment le consommateur local va se comporter. L'autre effet, je dirais, c'est que l'immobilier ne pouvant plus être un moteur de croissance, l'État a tendance à se tourner vers les entreprises exportatrices et vers ses champions nationaux. Et c'est comme ça qu'on voit arriver chez nous des entreprises comme BYD, toute cette vague d'exportation automobile chinoise qui met en concurrence notre industrie européenne.
Bon, c'est-à-dire qu'à vous entendre, l'immobilier est un risque qui est là, mais qui, a priori, ne va pas se traduire par un effondrement.
Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si on compare par exemple la crise immobilière aux États-Unis en 2007, la dette des ménages chinois, c'est que 30% du PIB, par exemple, alors que c'était 70% à l'époque aux États-Unis. Donc le consommateur reste suffisamment solide. Et puis le gouvernement fait ce qu'il faut pour éviter un effondrement complet. Hein. Mais c'est à dose homéopathique pour le moment. Et donc vous avez un frein, je dirais, à l'économie chinoise qui pourrait durer des années si le gouvernement accélère pas.
Quel lien voyez-vous entre le secteur immobilier et celui de la tech ?
Alors, c'est qu'en fait, c'est un peu les différents possibilités d'expansion pour la Chine pour les prochaines années. Le gouvernement doit faire des choix, c'est-à-dire que aujourd'hui, il a renoncé à l'immobilier, aux infrastructures financées par la dette pour driver l'économie. Mmh. Ça se comprend parce qu'en fait, les promoteurs avaient jusqu'à 13 millions de capacité annuelle de construction de logements, alors qu'avec la démographie chinoise, on va être plutôt sur une demande à 9-10 millions dans les prochaines années. Et aujourd'hui, donc il y a un peu deux voies. Il y a ou bien, effectivement, comme je disais, les exportations dans les renouvelables, dans l'automobile, même dans le textile, avec des géants comme Temu un peu partout dans le monde aujourd'hui. Ou alors un modèle qui serait un peu plus, je dirais, vraiment aller vers un modèle de pays développé, avec d'une part une montée en valeur technologique et d'autre part un modèle plus centré sur la consommation. Donc cet effort technologique, il est fait aujourd'hui. Donc c'est vrai que la Chine investit beaucoup dans ses secteurs prioritaires pour avoir une souveraineté, notamment dans tout ce qui est semi-conducteurs, avec pas mal de protectionnisme. Mais par contre, le choix d'aller vers la consommation, il est encore à faire, parce que c'est plus facile de créer des emplois dans l'automobile que dans la consommation ou justement dans la haute technologie. Donc on voit que le gouvernement, il est pris un peu entre deux priorités de ce point de vue-là.
Un petit mot de technologie et de semi. La Chine vient de bloquer l'utilisation des puces Intel et AMD dans les ordinateurs du gouvernement. Les semi-conducteurs et toute l'économie autour concerne la Chine pour plein de raisons. Est-ce que vous pouvez résumer comment la Chine se positionne sur ce secteur des semi-conducteurs à l'intérieur de la techno, mais au-delà même, je dirais?
La Chine, c'est une priorité absolument majeure, parce que c'est évidemment au cœur de cette montée en valeur technologique pour laquelle la Chine est prête aujourd'hui. Il faut voir que la Chine, aujourd'hui, il y a autant de temps passé en études supérieures au sens large en Chine que dans un pays développé. Donc il y a eu un énorme effort, je dirais, de formation de la main-d'œuvre. Donc la Chine a ce qu'il faut aujourd'hui avec des dépenses de recherche fondamentale qui ont dépassé celles de l'Union européenne. Donc on n'est pas encore au niveau américain, mais on est déjà une puissance très forte d'un point de vue technologique. Et évidemment, les semi-conducteurs, c'est une priorité. En fait, la Chine, donc, a beaucoup de champions locaux qui progressent assez vite sur justement les puces les plus avancées, plus lentement paradoxalement sur les plus traditionnelles. Mais ça a même une dimension évidemment géopolitique, puisque aujourd'hui il y a des savoir-faire qui sont clés à Taïwan, et c'est pas pour rien que la pression politique augmente par rapport à Taïwan. C'est en partie à cause de cette dépendance qu'a la Chine encore aujourd'hui vis-à-vis de Taïwan et vis-à-vis de la chaîne de valeur qui aujourd'hui est contrôlée par les États-Unis. Donc c'est les États-Unis, je dirais, qui ont tiré les premiers en coupant l'accès chinois à certaines technologie cœur, et donc là, on peut voir ça plutôt comme une réaction de la Chine.
La Chine dépendante de Taïwan sur ce sujet, on le comprend. Est-ce que les actions chinoises ont touché le fond ?
Alors, les actions chinoises, elles ont jamais été aussi peu chères, effectivement. La décote sur les pays émergents, on est à peu près à 30% aujourd'hui. Historiquement, c'était plutôt une prime de 20%. On est à peine à l'actif net comptable, donc des niveaux extrêmement bas. Est-ce qu'elles ont touché le fond ? Peut-être, au moins localement, parce que le gouvernement a pris conscience que ça pouvait être un sujet. Et puis aussi parce que, en fait, dans ce contexte avec très peu de visibilité, paradoxalement, les entreprises sont tentées de soutenir leur cours. Comme elles n'ont pas beaucoup de projets d'investissement, parce qu'en fait, il y a toute cette incertitude économique, elles utilisent l'argent pour racheter leurs actions ou récompenser les actionnaires. Donc on a, et c'est vraiment quelque chose de nouveau en Chine, on était plutôt dans le surinvestissement permanent, dans des augmentations de capital, etc. Et là, depuis le milieu de l'année dernière, le nombre d'entreprises chinoises qui rachètent leurs actions a triplé. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui pour les actionnaires est potentiellement beaucoup plus favorable, et c'est quelque chose qu'on voit à la fois sur le marché domestique et sur le marché international. Les entreprises chinoises cotées au Nasdaq rachètent de plus en plus d'actions, donc c'est peut-être quelque chose qui, dans un contexte de valorisation très basse, est de nature à être plus attractif dans la durée pour les minoritaires.
Alors pour ceux et celles qui nous écoutent, qui se disent bon, on est en bas, est-ce que c'est un point d'entrée, est-ce que c'est le moment d'aller mettre quelques billes, parce que finalement on est très bas, même si on va encore plus bas, on ne perd pas grand-chose. Quelle est une stratégie d'investissement pour les novices qui vous semble conseillable ?
Alors, ça peut être de se tourner ou bien vers des fonds régionaux, parce que c'est vrai que des fonds sur l'ensemble de l'Asie vont être capables d'investir justement dans les entreprises les mieux placées pour tirer profit de la croissance chinoise au sens large. C'est pas forcément des entreprises qui sont domiciliées en Chine de ce point de vue-là. Sont capables aussi de bénéficier de la croissance du consommateur émergent, même dans les pays où la démographie est plus favorable. On pense à l'Indonésie, on pense au Vietnam, qui bénéficient aussi de la délocalisation des chaînes de production en dehors de Chine. Et puis après, en Chine, si on veut commencer, on peut aussi, pour les plus aventureux, se tourner vers les entreprises qui sont les plus solides, les mieux positionnées des entreprises. Je pense par exemple à une entreprise comme NetEase en Chine, qui est peut-être aujourd'hui au niveau mondial une des entreprises qui est capable de créer les jeux vidéo les plus intéressants.
Les plus... vous pourriez nous les plaire pour ceux qui nous suivent en podcast ou à la radio.
Bien sûr, donc NETEASE, NETEASE, qui est coté à Hong Kong et à New York. C'est donc un leader mondial en termes de capacité de création de jeux vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une société qui est peu chère historiquement, qui a toujours eu une très bonne politique vis-à-vis de ses actionnaires minoritaires et qui aujourd'hui devrait, dans les prochaines années, incarner un peu cette réorientation de l'économie chinoise de son marché domestique vers l'international, puisque ils sont des champions domestiques, mais ils ont toute une série de studios à travers le monde avec des gens de très haut talent, de très grande qualité, et qui vont sortir des jeux pour le marché mondial dans les prochaines années. Donc ça va être un relais de croissance important et un peu l'illustration à la fois d'une montée en valeur de l'économie chinoise et puis de cette nécessité de se tourner vers l'international pour la croissance désormais.
Justement, ces entreprises chinoises qui sont cotées à la fois aux États-Unis et sur le territoire chinois, est-ce qu'il y a un profil type et est-ce que ce sont des entreprises sur lesquelles on peut aller avec moins de risques que celles qui seraient cotées que de manière locale ?
Alors non, parce que en moyenne les profils sont extrêmement divers. Hein. Vous avez eu historiquement pas mal de fraudes à l'étranger, hein, donc faut pas y aller comme ça en pensant que c'est plus sûr parce que vous êtes à New York ou en Europe que à Hong Kong ou en Chine. Pas du tout. Historiquement, c'est vrai que c'était plutôt des entreprises internet au sens large. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a pas beaucoup d'arrivées hein, à l'intérieur. International parce que les investisseurs, notamment américains, ont tendance à se retirer du capital des entreprises chinoises. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises chinoises de qualité, elles se cotent plutôt en Chine, un peu à Hong Kong, mais pas tellement sur les marchés internationaux. On parle beaucoup de Chine, on va voir s'ils se cotent à New York cette année, mais c'est pas la tendance de fond.
Est-ce que vous pensez que la vigueur des marchés boursiers japonais et indiens, la vigueur est directement liée à la faiblesse du marché boursier chinois ?
Alors, en partie, peut-être plutôt sur l'Inde, parce qu'effectivement, de même que les entreprises industrielles ont diversifié leur chaîne de production de la Chine vers l'Inde et dans une petite partie le Vietnam, de la même façon, les investisseurs boursiers qui veulent investir en Asie se détournent également. Donc c'est vrai qu'autant il y a 3 ans, c'était une floraison de fonds chinois parce qu'en sortie de Covid, c'était à la mode. Aujourd'hui, on commence à voir aux États-Unis des fonds Asie hors Chine, qui est un peu une...
Donc
une
un fonds Asie excluding China.
Voilà, exactement.
Comme on peut en trouver pour le Japon, par exemple. On met le Japon dans une catégorie à part.
Exactement. Alors, le Japon, c'est expliqué parce que c'était un pays développé. Donc, il y avait plus de sens économique. C'est vrai qu'exclure la Chine de l'Asie, c'est un petit peu absurde, à mon sens. Et c'est pour ça que si le marché se stabilise un petit peu, peut-être que c'est plutôt un signe de point extrême, hein, local. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a eu des flux qui expliquent un peu l'ébullition du marché indien. Mais c'est vrai que les principaux drivers, ils sont quand même domestiques, typiquement en Inde. Hein. C'est vraiment cette montée en puissance de l'épargne domestique qui nourrit le marché indien. C'est vrai que les mouvements des grands fonds internationaux, c'est un peu plus l'écume de la vague, je dirais, de ce point de vue-là.
Bon, ce qui pourrait, le catalyseur qui pourrait inverser ces flux vers l'Inde, de nouveau vers la Chine, ça serait quoi ? Une vraie politique chinoise ?
En fait, ça serait aussi ou bien ça serait effectivement des mesures pour gérer notamment tout le stock des encours immobiliers qui aujourd'hui sont bloqués et qui font que le consommateur chinois n'a pas du tout aujourd'hui envie de confier de l'argent à un promoteur pour un nouveau projet. Mais ça pourrait être aussi qu'on ait le sentiment que l'économie redevient une priorité pour le gouvernement chinois. Parce qu'en fait, depuis 3 ans, il souffle le chaud et le froid dans chaque secteur. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de gouvernail. Et c'est peut-être parce que la priorité, elle est d'abord politique, géopolitique. Et du coup, l'économie, c'est une variable d'ajustement des priorités politiques qui changent d'un jour à l'autre. Et du coup, ce manque de visibilité pour tous les acteurs, que ce soit les entreprises locales, les entreprises internationales, les investisseurs, c'est ça qui fait que personne ose y aller de façon importante.
On aurait pu parler aussi un peu plus en détail des IPO. Je voudrais vous poser une dernière question sur la potentielle entrée en bourse de Chine. Donc, a priori, ça ne sera pas aux États-Unis. Ça pourrait se faire à Londres. Qu'est-ce que ça signifierait pour vous ?
En fait, Chine, ça sera un bon défi parce que justement pour prouver que des entreprises chinoises sont légitimes sur un marché mondial avec des clients qui sont aujourd'hui principalement évidemment internationaux, il va falloir que Chine prouve qu'ils ont mis au point leur capacité de s'approvisionner, y compris en dehors de Chine, qu'ils fassent leur preuve en termes de traçabilité des produits. C'est extrêmement important parce que sinon les États-Unis peuvent, ou l'Europe pourrait interdire leur accès au marché. Et donc il y a vraiment, donc ça pourrait être effectivement un signal assez important en termes de crédibilité, de traçabilité, de droits humains, etc. Et ce qu'ils peuvent être suffisamment crédible pour atteindre du coup des valorisations élevées aujourd'hui sur un marché boursier occidental, c'est une question qui va être très intéressante à suivre. Oui.
Voilà, ce qu'on pouvait dire sur faut-il investir en Chine et que penser ou lire le marché actions chinois. Merci beaucoup Louis Darvieux, gérant chez Amiral Gestion. Merci d'avoir partagé votre expertise sur la Chine. Vous reviendrez dans quelques temps nous reparler. On fera le point évidemment au fil des semaines et des mois sur ce marché chinois qui nous occupe, qui vous occupe. Et on parlera des fonds régionaux qui nous permettent peut-être de miser sur ce marché sans pour autant forcément être basé, vous l'avez entendu, en Chine continentale. Vous restez avec nous, nous allons finir cette séquence en réfléchissant à la collection que vous pourriez avoir envie de créer. Comment acheter dans des maisons de vente et comment connaître le juste prix d'un objet que vous désirez ou d'un objet peut-être que vous voulez vendre. Réponse avec la maison Christie's dans quelques secondes. À tout de suite.
Tout pour investir. Investir autrement.
Nous allons finir cette émission en parlant de votre culture d'investisseur. Vous le savez, on essaye de penser investissement thématique chaque jour dans Tout pour investir. Aujourd'hui, c'est la maison Christie's qui est avec nous pour réfléchir à comment devenir collectionneur. Et notre expert du jour, c'est Tancredi Massimo. Bonjour Tancredi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour finir Tout pour investir en ce lundi matin. Nous allons réfléchir à comment débuter une collection. Qu'est-ce que ça veut dire débuter une collection ?
Alors débuter une collection, ça peut tout dire, mais principalement quand on débute dans sa carrière ou enfin
dans sa passion.
Dans sa passion, exactement. Il faut commencer avec un objet. Donc parfois, comment débuter une collection ? Moi, je dirais qu'il faut commencer à regarder les collections passées, que ce soit des collections prestigieuses ou connues. Et c'est pour ça que les ventes de collections, justement, sont un très bon début pour former sa propre collection.
Bon, vous nous dites, regardez ce qu'ont fait les meilleurs.
Voilà.
Hier, et puis il y a très longtemps, qui sont les collectionneurs ou les collectionneuses que vous suggérez de suivre pour faire son éducation ?
Alors, pour faire son éducation, toute collection est bonne, mais dans le passé, il y a eu des Médici, il y a eu des grands collectionneurs comme Catherine II de Russie, même des Rothschild. Récemment, on a pu travailler sur des collections absolument inoubliables, comme la vente Yves Saint Laurent et Pierre Berger qui a eu lieu en 2009, et plus personnellement, la vente d'Hubert de Givenchy en 2022.
Bon, vous nous citez des gens, les Médici, Catherine II de Russie, Hubert de Givenchy et puis le couple Berger-Saint Laurent, c'est des gens qui ont tous une patte, un œil, qui ont forgé au-delà d'une collection leur collection, n'est-ce pas ? Bon, par quoi on commence quand vous nous dites qu'il faut trouver un objet ? Vous, par exemple, vous êtes collectionneur ?
Je suis collectionneur sur un très petit niveau.
Quel était le premier objet que vous avez collectionné ?
Le premier objet que j'ai collectionné, c'était un masque africain qui valait absolument rien. Mais c'était un masque qui m'avait beaucoup plu quand j'avais à peu près 15 ans, que je l'ai vu sur le marché de puces de Vanves, plus précisément à Paris. Et comme ça a débuté un tout petit peu ma collection qui... Je la considère un peu comme un Kunstkammer. Voilà. Donc, un objet de curiosité que, justement, j'ai pu rajouter au fil des années beaucoup de choses là-dessus.
Bon, sans se lancer dans une collection professionnelle, on parle peut-être d'une activité amateur à côté du reste de sa vie, on va dire. Comment on estime la valeur d'un objet ? Je reprends l'exemple du masque que vous avez identifié aux puces de Vanves il y a quelques années. Comment vous avez su ? Et comment vous pouvez garantir la valeur de cet objet ?
Moi, je ne l'ai pas acheté pour une question de valeur, absolument pas. C'était vraiment purement parce que ça me plaisait. Et justement, autour de cet objet-là, j'ai pu m'intéresser à beaucoup d'autres beaucoup d'autres catégories, beaucoup d'autres objets. Je collectionne aussi beaucoup de fossils, enfin d'objets de curiosité qui ont été collectionnés, je dirais, dans les depuis des siècles par plusieurs personnes illustres. Mais ça, c'est moi. Et donc, du coup, pour le marché, je dirais qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en jeu par rapport à comment et pourquoi quelqu'un veut justement créer sa propre collection. Donc, quand on parle des ventes ou des collections, par exemple, de Yves Saint Laurent ou de Hubert de Givenchy, là, on voit un vrai œil et un vrai, comment dire, savoir-faire, un vrai goût et un vrai art de vivre. Et c'est ça que les gens ou les clients ont envie d'émuler.
La provenance, c'est quelque chose d'important.
Très important, très important. Je dirais même totalement clé, parce que la provenance, justement, c'est une valorisation, c'est le prestige, c'est un objet qui est rentré peut-être dans la collection de Coco Chanel, qui ensuite est rentré dans la collection d'Hubert de Givenchy, et maintenant qui est sûrement dans une collection prestigieuse ailleurs. Ça veut dire qu'au fil des années, au fil des siècles, cet objet a été valorisé justement par chaque personne qui l'a acheté et qui l'a préservé pour que ça, comment dire, son importance, à chaque fois qu'elle est vendue et à chaque fois qu'elle est préservée dans une collection, c'est ce qui rajoute au mythe, je dirais, autour de cet objet.
C'est-à-dire que la provenance, c'est pas un point A à un point B. C'est toutes les mains par lesquelles un objet a pu passer qui rajoute de la valeur à cet objet.
Oui, exactement. Et en fait, sûrement, enfin, quand on n'est pas sûr de comment on veut façonner notre propre collection, c'est toujours bien de regarder les collections du passé.
Il y a aussi quelque chose de très contextuel, c'est le marché. Il y a des choses qui ont plus la cote en ce moment que d'autres.
Absolument.
Par exemple, qu'est-ce qui est complètement passé en désuétude là, en 2024, comparé à peut-être, je sais pas, il y a une dizaine d'années?
Ça dépend, même dans la vente encore, je reviens à cette fameuse vente de 2022, Hubert de Givenchy, parce que il y avait toute une partie 20e qu'on savait très bien qu'elle allait très bien marcher, mais elle était très lourde aussi dans le mobilier 18e. Et dans cette vente, on a vu des prix records. C'était absolument remarquable. Et c'était le retour du 18e, justement, dans cette vente qu'on a vue en 2022. Il y a eu certaines choses sur lesquelles on était, je dirais, confiants, mais il y a eu beaucoup de surprises aussi. Mm-hmm. Et beaucoup de prix surprises.
On voulait prendre un exemple très concret pour illustrer comment on devient collectionneur avec la Maison Christie's en préparant cette interview. C'est le cigare de Winston Churchill.
Oui.
Racontez-nous.
Alors, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup même. Mais Winston Churchill, il fumait des Romeo et Julieta. Quand on va acheter un Romeo et Julieta aujourd'hui dans le magasin, ça va nous coûter 60€, 80€. Mais il existe des cigares à moitié fumés, par exemple, par Winston Churchill, ce qui rajoute une valeur. Mais une valeur, je dirais, c'est x10, x 1000, parce que je crois que le record du monde pour un cigare à moitié fumé de Winston Churchill, c'est à 12 000€. Donc ça montre comme quoi un objet, pas besoin qu'il soit fait de pierres précieuses ou de matières précieuses, mais en fait, c'est juste l'association avec quelqu'un aussi illustre que Winston Churchill qui fait en sorte qu'il y a des collectionneurs qui existent, qui veulent avoir cet objet, on pourrait dire objet fétiche chez eux.
Expliquez-moi comment on garantit la provenance depuis la bouche de Winston Churchill à une collection.
Très difficile. Alors justement, il y en a un qui a été récupéré, je crois, à l'aéroport du Bourget par le pilote de l'avion qui lui avait amené, je crois, sur une traversée transatlantique.
À une époque, on avait le droit de fumer.
Voilà, exactement. Et moi, plus personnellement, je l'ai vu dans une maison anglaise c'était connu qu'il y allait visiter et y dormir dans cette maison anglaise. Et ça a été préservé depuis cette fameuse visite.
Bon, provenance, marché, désirabilité, évidemment, ce sont des mots-clés pour arriver à estimer la valeur d'un objet. La question de cette séquence, c'était comment devient-on collectionneur ?
C'est très facile. Tout le monde peut le devenir. Ça n'a pas besoin de commencer avec quelque chose de valeur. Justement, je vous ai donné l'exemple de moi pour quelque chose que j'avais acheté pour à peine 50€. Comment devenir collectionneur aujourd'hui ? Il faut juste avoir l'envie. Est-ce qu'on a besoin d'avoir conseil ? Oui, je dirais. Il faut toujours demander conseil, mais comme tout dans la vie. Et première chose, il faut commencer avec un objet. Il faut commencer avec une zone d'intérêt, je dirais. Et cette zone d'intérêt va toujours changer.
Merci beaucoup, Tancredi Massimo, de l'équipe de Christie's. Vous êtes en charge des collections et puis directeur du département des inventaires dans la maison Christie's. Merci d'avoir partagé votre expertise avec nous. C'est la fin de Tout pour investir. Je vous précise que cette chronique est à retrouver en ligne, en podcast et en replay d'ici quelques minutes sur notre magnifique site web, mais aussi sur l'ensemble des plateformes où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Merci à toute l'équipe pour la préparation de cette émission. Merci à vous toutes et tous pour vos nombreux messages. Vous continuez à nous écrire. On répond à vos questions pendant le direct où elles viennent infuser notre émission de demain et d'après-demain. Si vous avez attrapé cette émission en cours, vous le savez, vous pouvez la retrouver en ligne. On sera là demain dès 10h. On a prévu de parler investissement dans les mêmes coins. Dans les mêmes coins. Oui, vous avez bien entendu. Certaines de ces cryptos montrent des performances assez incroyables. On parle là, vous savez, de ce genre de crypto-monnaie avec des chiens dessus. C'est un vrai sujet d'investissement pour ceux qui trouvent que le Bitcoin est un actif. Et puis, on sera avec Stéphane Descartiers, le président de la Maison de l'Investisseur pour notre séquence immobilier. Amaury de Tonquédec, en parlant de crypto, est avec nous. Bonjour Amaury.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Vous serez aux manettes de BFM Crypto, le club, dès 15h. Sur notre antenne, à 21h30 également, et en podcast à toute heure du jour et de la nuit, en France et au-delà. Quel est le programme de votre émission aujourd'hui ?
Eh bien, les ETF Bitcoin Spot, la semaine dernière, ont vécu leur pire semaine depuis leur lancement. Et quand on fait la balance, les flux sont légèrement négatifs, donc on va décortiquer tout ça. Pourquoi sont-ils négatifs ? Faut-il s'inquiéter ? Rendez-vous à 15h.
Le Bitcoin, alors on se parle, se traite autour de 66 995 dollars. Mais ça ne fait pas scier Sandra Gandoin, qui nous rejoint. Bonjour, chère Sandra.
Bonjour, Lorraine.
Qui prend les manettes d'Avec vous, l'émission qui s'occupe de vous, à midi, entre midi et 13h. Quel est le programme de la journée ?
On va parler d'horaires de travail, on va parler de négociations salariales, de négociations de carrière aussi, quand on est une femme particulièrement, de risques psychosociaux chez les managers ou de passer de CDI à freelance, il y en a plein qui se posent la question. De toutes ces questions-là et de toutes celles que vous allez nous poser à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr, toutes vos questions nous intéressent, vous êtes salarié, indépendant, patron, on est là pour répondre à vos interrogations et c'est dans quelques instants sur BFM Business en direct.
Avec vous à bfmbusiness.fr, l'adresse de la libre antenne de BFM. Tiens Amaury, on a une question d'auditeur pour vous, c'est Michel de Toulouse qui nous suit, parce qu'on a beaucoup de Michel, on a beaucoup de Patrick, on a beaucoup de Michel. C'est Michel de Toulouse qui vous demande, est-ce que le halving, l'événement intergalactique qui va secouer la sphère crypto au mois d'avril, est déjà pricé ou pas dans le prix du Bitcoin ?
Que des beaux prénoms, j'adore. Non mais justement, je vais recevoir un spécialiste du halving mercredi, donc après-demain. Donc on en reparle jeudi, si ça vous va, Lorraine.
Voilà, Michel, on vous répondra jeudi ou vendredi. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Vous restez branchés, il est 11h56 sur BFM Business.
Tout pour investir sur BFM Business.